Bonjour Sandra Régol.
Bonjour.
Et on va parler du réchauffement climatique avec un nouveau constat assez alarmant des Nations Unies. Mais d'abord, le Mali, le Sahel, est-ce que la mort des 13 soldats français lundi au Mali doit être l'occasion d'ouvrir un débat sur la présence militaire française au Sahel ?
Ça doit déjà être l'occasion de penser à tous ces héros, j'ai envie de dire, dont on parle jamais, qui sont des héros de l'ombre et dont on ne parle que quand ils perdent la vie, parce que la réalité, c'est qu'il y a de nombreux fronts sur lesquels il y a la paix à préserver et sur lesquels la présence de militaires est requise, et ce front-là en faisait partie. Les morts qu'il y a aujourd'hui rappellent aussi l'ensemble des personnels militaires qui sont sur place tout le reste du temps. Après, à savoir si la France doit rester ou se retirer du Mali, la lutte antiterroriste devrait permettre de faire basculer l'armée française aussi de stratégies offensives à des stratégies de mise en place de procédures de paix. Certes, l'armée française est déjà engagée dans ce type de procédure, mais on a encore une vision de l'armée qui reste très ancienne, où l'action militaire prime sur l'action démocratique. Et je pense que plutôt que de se demander si l'armée doit rester ou pas, on devrait se demander comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre armée vers une armée proactive plutôt qu'une armée réactive.
Mais pour vous, en l'état actuel des choses, la présence militaire française au Sahel protège-t-elle la France et l'Europe aussi du terrorisme islamiste?
C'est son objectif en tout cas. Ouais, mais il n'y a pas que les armées qui font ça.
Est-ce qu'elle y parvient?
C'est un très grand débat. Mais il n'y a pas que les armées qui font ça. Je pense notamment au peuple kurde dont on a beaucoup parlé, qui agit dans l'ombre et qui pense ses plaies et qui pleure ses morts chaque jour un peu plus, pour protéger à la fois son peuple et l'ensemble de l'Europe dans l'indifférence internationale, et notamment celle des États-Unis, on l'a bien vu il n'y a pas longtemps, mais qui fait partie de ces remparts contre le terrorisme. Après, les leviers sont nombreux. Je pense notamment aux leviers financiers, qui sont malheureusement très peu activés et qui sont des leviers très puissants contre le développement du terrorisme.
À quelques jours de la nouvelle conférence climat, donc la COP25 qui va se tenir du 2 au 13 décembre à Madrid, les Nations Unies ont dressé un tableau particulièrement alarmant de la situation du réchauffement climatique. Il n'y a eu, disent les Nations Unies en 2018, aucune réduction des émissions de gaz à effet de serre et aucun signe de ralentissement n'est visible pour les mois et les années à venir en l'état actuel des choses. Est-ce que le scénario du pire est en train de se produire?
Ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a 10 ans de retard dans les politiques de lutte contre le réchauffement climatique.
10 années perdues, hein, d'une décennie perdue.
10 années perdues, tout à fait. Et 10 années qu'on est en train de payer très cher. Parce que ce que dit ce rapport, c'est que notre travail de ralentissement de production des émissions va devoir doubler, tripler, quadrupler si on veut être en mesure de tenir. Dit comme ça, ça paraît très éthéré. Mais en fait, ces conséquences du réchauffement climatique ont des conséquences très concrètes qu'on constate aussi bien sur la zone Europe que sur la zone Afrique qu'ailleurs, à travers des difficultés de plus en plus grandes d'accès à l'eau, même ici en France, où je pense notamment en Poitou, je crois, où il y a des guerres entre agriculteurs et locaux sur des rétentions d'eau, sur l'accès à l'eau, et où on a des sécheresses de plus en plus dures. En fait, il y a cette traduction-là, et il y a aussi une traduction financière. L'OFCE a calculé que si on n'agissait pas maintenant, le prix en monnaie sonnante et trébuchante, allait s'enflammer. On allait avoir à débourser jusqu'à 50%, même plus du PIB, pour arriver à compenser ces pertes du réchauffement climatique. C'est là-dessus qu'accentue l'ONU. Mais j'ai envie de dire, si on est proactif là-dessus aussi, on peut considérer ça comme une chance. On a une chance à saisir, qui est de changer notre système économique, notre système politique, pour faire passer les conséquences environnementales, l'impact environnemental, avant les questions financières. Et autour de ça, on est en capacité aujourd'hui, dans une France et une Europe qui est souvent décrite et effectivement est souvent à la traîne sur le plan économique, de développer de nouveaux pans d'activité dans les énergies renouvelables, dans l'accompagnement des territoires qui permettraient de restaurer du dynamisme économique au plus près des gens. Et après la période des gilets jaunes, je pense que c'est pas une petite avancée que de mettre en place de tels systèmes.
Ça fait des années qu'on entend dire qu'on peut éviter la catastrophe. Et même, et vous venez de le faire, que finalement, les difficultés sont une chance et qu'il faut s'en saisir. Est-ce que tout cela n'installe pas finalement dans les esprits l'idée qu'il n'y a pas de véritable urgence et qu'il sera toujours temps de réagir ?
Non, il ne sera pas toujours
temps. Oui, mais c'est quand même ce qui se passe, non ?
En fait, moi, quand j'étais petite, on avait le trou de la couche d'ozone qui menaçait. Et puis, on disait que...
Que c'était à cause de la laque dans les cheveux, notamment.
Tout à fait. Et en fait, à un moment donné, les pays se sont coalisés, ont agi, et le trou de la couche d'ozone s'est résorbé. C'est ça que les pays sont en capacité de faire s'ils se mettent ensemble. Aujourd'hui, la Chine a recommencé à produire des gaz qui détruisent la couche d'ozone et tout le travail est à recommencer. Tout ça pour dire qu'il y a les moyens d'agir, mais il faut le faire très vite.
Alors, on va parler chiffres un instant, puisque selon l'ONU, pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% entre 2020 et 2030, soit 2,7 par an. Et si l'on se fixe un objectif plus ambitieux, qui est celui de 1,5 degré maximum de réchauffement climatique, l'effort devra être de 7,6% de réduction par an. Ce sont des chiffres qui sont un peu abstraits. Vous parliez tout à l'heure de mesures éthérées. Ben là aussi, les chiffres sont un peu abstraits. Est-ce qu'on est en mesure de dire concrètement ce que représenterait, par exemple, ce type d'effort de réduction des gaz à effet de serre sur un an, si on veut faire 7,6%, quelles mesures faut-il prendre, nous, la France, par exemple, pour le faire ?
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail.
Non, bien entendu, par année.
Sinon, on en a pour plusieurs heures. Oui. Mais on peut commencer par, notamment, travailler l'isolation des bâtiments. Puisque, vous savez, la France, en 2017-2018, avait une chute de ses émissions qui était due à un hiver très doux, où on avait moins besoin de chauffer. On peut rénover le système agricole pour faire en sorte que tous ces pesticides qui sont très producteurs d'une partie des gaz, d'une partie des émissions qui sont condamnées par ce rapport de l'ONU cessent de le faire, etc. Et puis il y a aussi tout ce qui est climatisation et réfrigération. Ce sont trois axes d'action. Et puis le principal, le gros levier, c'est d'arrêter d'investir dans les énergies fossiles, les banques, la finance, les États continuent à investir massivement dedans. On est en capacité aujourd'hui de produire autrement, à la fois pour gagner un peu plus en pouvoir de vivre et à la fois pour gagner le droit de vivre un peu plus longtemps.
Les agriculteurs ont manifesté hier à Paris. Beaucoup d'entre eux sont à bout, des revenus misérables pour un travail considérable. Et ce sentiment, on parle d'agribashing, c'est l'expression à la mode, ce sentiment d'être désigné comme de vilains pollueurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Autre peut-être que passer au bio ?
En fait, les agriculteurs français ont été pris dans l'étau de modifications politiques qu'ils n'ont pas choisies. C'est-à-dire qu'au tournant des années 60, on leur a expliqué que la supermotorisation, le surusage de pesticides était la seule solution pour avoir de bons rendements et de faire des choses. Aujourd'hui, leurs terres sont appauvries. Donc c'est un cercle vicieux où il faut toujours plus mettre de produits pour fertiliser la terre et toujours plus mettre de pesticides pour arriver à l'exploiter. Et donc oui, non seulement les agriculteurs s'appauvrissent puisque la grande distribution leur laisse très peu de marge et leur met une pression terrible, mais en plus leur coût d'investissement sont très
forts.
Malgré une loi qui devait tout changer, mais dont je vous rappelle qu'elle n'a pas été conclue par Nicolas Hulot puisqu'il estimait qu'elle ne changeait rien et dont Édouard Philippe a dû faire en urgence la conclusion pour dire que oui, quand même, on avait avancé. C'est ça la réalité de la situation des agriculteurs français aujourd'hui, c'est qu'on leur fait croire que c'est de l'agribashing, là où tous les écologistes sont de leur côté pour dire ça fait des années que vous faites avoir, trouvons ensemble les moyens d'avancer.
Merci Sandra Rigol. Bonne journée.
Merci à vous.